Je suis GVUcien. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous ce soir. À l'inverse des personnes qui ont pu être là devant vous pour parler de l'Apocalypse récemment, je ne suis pas doyen de la fac de Vaud. Je ne travaille pas à plein temps pour le GBU, je ne suis pas secrétaire itinérant régional. Je ne suis pas non plus secrétaire général et je n'ai pas implanté d'église. Mais par contre, bon, donc je suis quelqu'un de comme vous, j'ai roulé ma bosse dans le GBU. Bon, peut-être que un peu plus que au moins la plupart d'entre vous, j'ai fait plus d'études bibliques, donc j'ai plus travaillé la méthode OUIR. C'est peut-être juste pour ça que je suis là. Et puis une dernière chose, c'est que j'ai eu l'occasion à d'autres moments de faire ce genre d'exercice, et sinon ça aurait été dangereux de me lancer dans cet exercice ce soir pour la première fois avec un texte pareil. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et l'habitude, c'est de commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'inverse de ce qui a été annoncé, je ne vais pas vous éclairer dans tous les détails. En réalité, j'ai ma propre interprétation sur chaque petit détail. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai réfléchi à ce texte. Et donc, si je voulais vous donner mon interprétation, je pense qu'il me faudrait, pour vous convaincre, à peu près 3 jours et demi. 24 heures sur 24. Donc comme j'ai une demi-heure, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis en plus, puisque je ne suis ni Jacques Buchholz, ni Daniel Mullins, ni David Brown, je ne vais pas vraiment vous donner mon avis. Une des choses que je veux faire ce soir, c'est vous faire réfléchir à vos présupposés, à la façon dont vous réfléchissez. Parce que lorsqu'on arrive dans un texte comme celui-là, on arrive rarement sans présupposés. On a déjà des idées toutes faites qui nous viennent d'autres lectures de la Bible, si on a déjà lu la Bible. Ou bien si on n'a pas lu la Bible, on va tendance à prendre le texte comme s'il nous était destiné, ou peut-être même, si vous n'avez jamais lu la Bible, c'est peut-être tout simplement complètement obscur. Alors ce que je vais faire en premier, c'est faire un panorama des différentes interprétations qui ont été données, que Jacques Buchholz avait dépeint au tout début de cette série. Je vais vous donner les faiblesses et les forces de ces interprétations et je vais vous donner le présupposé qu'il y a derrière ces différentes interprétations. Et donc, derrière votre propre interprétation, c'est bon que vous sachiez qu'il y a une autre interprétation. Enfin, il y a d'autres présupposés qui, d'une certaine façon, conditionnent votre interprétation. Dans un deuxième temps, je vais un peu déblayer la structure du texte, faire quelques remarques générales, et donc je ne vais pas détailler les différents symboles qu'on peut trouver. Et puis, en conclusion, je vais donner des applications générales qui fonctionnent, à mon avis, dans tous les cas, quel que soit le type d'interprétation que l'on adopte. Donc, première chose, il y a différents types d'interprétations possibles de ce texte. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer que l'interprétation qui vous paraît la plus naturelle vous paraît naturelle précisément parce que vous avez déjà des présuppositions plus profondes qui déterminent, d'une certaine façon, votre interprétation. Donc, 4 types d'interprétations, disons, c'est les 4 types d'interprétations classiques, et après, toutes les autres interprétations sont des combinaisons de 2 ou de plusieurs de ces interprétations. Première interprétation, et je vais suivre l'ordre qu'a suivi M. Buchholz. Première interprétation, les interprétations de type futuriste, qui considèrent que ce qui est écrit dans l'Apocalypse n'a pas encore eu lieu. John MacArthur, qui est un futuriste que j'apprécie beaucoup, considère par exemple que les 2 bêtes d'Apocalypse 13 sont d'une part le gouvernement mondial, qui d'après lui prendra place à la fin des temps, et la fausse religion universelle qui sera instaurée en même temps pendant les 7 dernières années de notre monde, avant le retour de Jésus. Quel est le présupposé qu'il y a derrière son interprétation? Eh bien, John MacArthur et tous les futuristes avec lui considèrent que les prophéties de la Bible, ce qui est annoncé comme des prédictions d'avenir, doivent s'accomplir le plus littéralement possible. De sorte que, par exemple, lorsque l'Apocalypse parle d'une étoile, Eh bien, il doit s'agir littéralement d'une étoile. Mais comme aucune étoile n'est jamais tombée littéralement sur la Terre, comme c'est marqué dans Apocalypse 6, ça veut dire que ce qui est écrit dans l'Apocalypse n'a pas encore eu lieu. Quelle est la force de ce type d'interprétation? Eh bien, je crois que ce qui est important et qu'il faut souligner à l'honneur de ce type d'interprétation, c'est son profond respect pour le statut de la Bible. Les futuristes adhèrent à une Bible sans erreur. Et je pense que beaucoup de chrétiens évangéliques sont d'une certaine façon futuristes parce qu'ils ont peut-être peur d'adhérer à d'autres positions qui leur semblent moins collées au texte. Et donc, il faut garder cela, quoi qu'il arrive, il faut avancer en gardant l'autorité de la Bible devant nous. Ce que la Bible dit est vrai. Et c'est la grande force du futurisme, et il faut le louer. Il y a cependant une ou deux faiblesses, je crois, de ce principe qui est hyper littéralisant. C'est qu'à mon avis, il n'est pas complètement cohérent. Parce que si on croit que c'est vraiment une étoile qui doit tomber dans Apocalypse 6, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment un monstre qui sort de la mer et un monstre qui sort de la terre qui doivent arriver réellement, que ce ne sont pas vraiment des bêtes littérales. Et puis il y a un autre problème que je vois, c'est que l'interprétation futuriste qui situe la totalité de l'Apocalypse dans un avenir proche ou lointain, eh bien c'est que du coup l'Apocalypse n'a pas beaucoup de pertinence pour les premiers destinataires à qui Jean avait écrit l'Apocalypse il y a à peu près 2000 ans. Deuxième type d'interprétation, les interprétations prétéristes. Alors prétéristes, pour ceux qui ont fait du latin ou peut-être l'anglais peut aider, ça dit que ça s'est passé avant, ou dans un sens ça s'est passé rapidement. Cette position énonce que les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent au premier siècle ou dans les premiers siècles. Par exemple, John Stott, un prétériste dont j'apprécie l'enseignement, considère que les deux bêtes d'Apocalypse 13 représentent d'une part l'oppression politique et d'autre part l'oppression religieuse de l'Empire romain. D'où vient ce type d'interprétation? À mon avis, ça ne vient pas de l'Apocalypse lui-même. C'est pas l'Apocalypse qui permet de donner la clé de cette interprétation. Je pense que les prétéristes partent de Matthieu 24, ce texte où Jésus annonce des grands signes spectaculaires, et pourtant, dans ce qu'il appelle une grande tribulation, il annonce que ces événements doivent arriver dans cette génération, c'est-à-dire la génération des apôtres. Et donc ce que disent les prétéristes, c'est que la petite apocalypse dont Jésus parle en Matthieu 24, s'est réellement passée à l'époque des apôtres, par exemple en 70, au moment de la destruction de Jérusalem. Et du coup, ils arrivent dans Apocalypse et disent, l'apocalypse, ça ressemble quand même beaucoup à ce que Jésus dit dans Matthieu 24, et donc ça va parler de la même période. Et donc, quand ils arrivent dans Apocalypse 1.3, qui dit que le moment de la prophétie est proche, ils disent, mais regardez, le moment de la prophétie est proche. Ça veut dire que, pour les personnes de l'époque de Jean, c'était proche. Donc, par exemple, dans les 30 années qu'on suivit, ou dans les 2 années qu'on suivit, si ça a été écrit en 68. Ou, même si c'était un peu plus tard, que ça parlait de la destruction de Rome en 476, eh bien, les chrétiens ont pu s'en rendre compte rapidement. Donc, la force du et à mon avis, ça amène à une force du prétérisme, c'est que c'est une application très directe pour les chrétiens de ce siècle, puisqu'ils ont pu voir très rapidement que les prophéties qui étaient écrites dans l'Apocalypse étaient vraies. Bon, il y a quand même un problème que je vois, c'est qu'à notre connaissance, aucun chrétien des premiers siècles n'a interprété l'Apocalypse ainsi. Donc c'est quand même problématique. Dans ce sens-là, la première fois où on voit vraiment apparaître une interprétation prétériste cohérente, c'est vers la fin du XVIe siècle. Bon, il y avait des prémices à partir du XVIe siècle, mais bon, il y avait rien avant ça. Et puis, il y a un autre problème, c'est que si on dit que tout ce qui doit arriver bientôt arrive dans les années qui suivent, ça pose un problème sur le fait que Jésus dit qu'il revient bientôt. Troisième chose, donc ça pose un problème soit sur le statut de la Bible, soit sur la nature du retour de Jésus-Christ. Troisième interprétation, les interprétations, historicistes, qui déclarent que les différentes visions de l'Apocalypse trouvent leur accomplissement dans des événements historiques précis. Par exemple, pour la Bible de Genève de 1646, dont j'apprécie beaucoup les notes, les deux bêtes sont la puissance politique et religieuse de la papauté, c'est-à-dire du royaume du pape. Le présupposé, et à mon avis également la force de l'historicisme, c'est de dire qu'il faut lire l'Apocalypse à la lumière du livre de Daniel. Et qu'est-ce que fait le livre de Daniel ? Eh bien, c'est des visions qui décrivent toute l'époque de façon historique et précise. Si vous regardez Daniel 3, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, qui décrivent toute l'époque de Daniel à la première venue de Jésus-Christ. Et ce que disent donc les historicistes, c'est que l'Apocalypse fait la même chose, sauf qu'au lieu d'aller de l'époque de Daniel à la première venue de Jésus, ça va de l'époque de Jean à la deuxième venue de Jésus. Et donc, il faut interpréter et trouver les événements qui sont cachés derrière ces symboles. La faiblesse principale, cependant, de ces interprétations, c'est leur côté souvent très arbitraire. Et si on regarde un petit peu l'histoire des interprétations de l'Apocalypse, et c'est notamment vrai pour la première partie de l'Apocalypse, les significations historiques des sept sceaux et des sept trompettes sont tellement diverses et variées qu'on est un peu étonné de ce que produit ce type d'interprétation. Quatrième type d'interprétation, les interprétations dites idéalistes ou symbolistes, qui considèrent que l'Apocalypse décrit de manière imagée et figurée la totalité de la période qui va de la Pentecôte à la seconde venue de Jésus. Mais donc ça se rapproche de l'interprétation historique, sauf que ça ne voit pas un accomplissement dans des événements précis, mais plutôt ça donne des principes qui dirigent notre monde et qui dirigent peut-être de façon cyclique notre monde. Par exemple, Verne Poitras, un symboliste dont j'apprécie l'enseignement, pense que les deux bêtes sont les états sans Dieu de notre monde et les idéologies qui persécutent l'Église. Alors j'ai cherché un peu le présupposé du symbolisme et en fait j'arrive à la conclusion que le présupposé qu'il y a derrière, c'est que les autres interprétations ne peuvent pas être justes à cause des problèmes que j'ai déjà mentionnés. La force du symbolisme, c'est qu'elle permet de trouver une applicabilité, une application directe, il n'y a pas besoin de la dériver de façon secondaire, disons, ça a une implication directe pour les chrétiens de tous les temps. Et donc la partie application est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et puis ça évite bien sûr les interprétations parfois tirées par les cheveux des différentes interprétations historiques. La faiblesse de cette approche cependant, car il y en a une, c'est qu'il n'y a pas de précédent biblique à une prophétie qui ne s'accomplit pas dans des événements précis. Il n'y a pas de prophétie avant qui se contenterait de donner des principes généraux qui guident le monde. Et le problème, c'est que au chapitre 1, au verset 3, l'Apocalypse se présente ainsi. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qu'il est écrit. » Et un peu plus tard, il dit « Voici ce qui est et ce qui sera. » Donc voilà pour les différents types d'interprétations. Monsieur Buchold avait ajouté un type d'interprétation qui était l'interprétation éclectique. J'avoue ne pas avoir tout à fait compris ce qu'il voulait dire, puisqu'il n'a pas donné de définition précise. Il voulait juste dire que peut-être c'était son interprétation et que c'était la meilleure. Quoi qu'il en soit, il avait donné des choses très intéressantes au niveau de la structure de l'Apocalypse, comme quoi il y avait des mondes et qu'il fallait considérer chaque septenaire dans sa globalité et dans les différents cycles de l'Apocalypse. On peut revenir au texte. Je ne vais pas vous donner donc mon interprétation propre. Je vais vous faire quelques remarques maintenant. Et puis, à partir de ce que vous croyez déjà voir dans ce texte, peut-être que ce que je vais dire, ça va vous faire réfléchir. Et puis, au fur et à mesure, à un moment ou à un autre, peut-être que vous changerez d'idée. Alors, où est-ce qu'on se trouve dans l'Apocalypse ? On est dans le quatrième septenaire, c'est-à-dire le quatrième cycle de sept. D'abord, il y a eu les sept lettres aux églises, puis les sept sceaux, et ensuite les sept trompettes. Et maintenant, depuis la semaine dernière, nous sommes arrivés au début du chapitre 12 avec les sept signes, ou les sept visions. La première vision, c'était celle d'une femme, chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et le peu de personnes qui étaient là la semaine dernière a pu voir que cette femme était le peuple de Dieu, l'Israël de l'ancienne alliance, sur lequel se grefferaient plus tard, comme on le voit à la fin du chapitre, les païens, pour former avec Israël l'Église. La deuxième vision, c'était celle d'un dragon, chapitre 12, verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon, rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Qu'il est laid, ce dragon. Et qui est-il? Ça nous est dit explicitement au verset 8. Le grand dragon n'est autre que le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Et on pourrait rajouter à la lumière de la suite du siècle, et qui persécute le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous trouvons dans notre texte la troisième et la quatrième vision, celle d'une bête et d'une autre bête. Et chacune de ces deux visions, et c'est important de voir, vous ne l'avez pas forcément remarqué dans les petits groupes, les deux visions sont structurées de la même façon. Une bête apparaît, des pouvoirs lui sont donnés, et elle les utilise pour s'opposer à Dieu et persécuter l'Église. Très rapidement, verset 18 et 1 et 2, verset 18 du chapitre 12 et 1 et 2, apparition de la première bête. Verset 2 à verset 8, des pouvoirs sont donnés à la première bête pour qu'elle persécute l'Église. Versets 9 et 10, conclusion de la première vision avec une exhortation à ceux qui écoutent. Verset 11, apparition de la seconde bête. Versets 12 à 17, des pouvoirs sont donnés à la seconde bête pour qu'elle persécute l'Église. Verset 18, conclusion avec un appel à l'intelligence des personnes qui écoutent. Première vision, première apparition. Chapitre 12, verset 18, vous avez peut-être pas exactement vous avez peut-être « Je me tins sur le sable de la mer ». Bon, j'ai pas 12 heures, donc je vais pas vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut lire. « Et le dragon se tint sur le sable de la mer ». C'est pas très grave, faites-moi confiance ou pas, mais je vous donne ma préférence. « Et le dragon se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » L'est aussi. Plein de choses intéressantes à dire. De quoi faire une conférence de 4 heures. Mais je vais me contenter de souligner que cette vision est ancrée dans une autre vision, celle qui est rapportée en Daniel 7. Je vais vous faire un résumé. Dans cette vision, 4 bêtes énormes sortent de la mer. La première bête, écoutez bien, en regardant le texte, ressemblait à un lion. La seconde, à un ours. La troisième a un léopard. Et de la quatrième, il est simplement dit qu'elle était redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Interprétation de ces bêtes de Daniel 7. L'interprétation est donnée par Daniel 7 lui-même, au verset 17 et 23. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Et en fait, qui sont ces 4 rois? La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Donc les bêtes sont des rois, sont des royaumes. Les bêtes qui sortent de la mer, ce sont de grands royaumes. Et le contexte de Daniel montre qu'il s'agit des 4 grands empires qui vont de l'époque de Daniel jusqu'à la venue du Messie. Ce sont l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire macédonien d'Alexandre qui ensuite sera divisé sous ses généraux, et puis l'empire romain, la quatrième bête. La bête d'Apocalypse 13 est d'ailleurs peut-être, et je le crois, la quatrième bête de Daniel 7, dans un premier temps, l'Empire romain. Mais d'une manière plus générale, on peut voir dans la description que Jean fait ici de cette bête immonde, eh bien, le principe de l'État sans Dieu, qui s'oppose à Dieu et qui persécute son Église. Après avoir observé l'apparition de cette bête, eh bien, on trouve les pouvoirs qui lui sont donnés. Et de qui lui sont-ils donnés? Verset 2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et verset 4, le dragon avait donné l'autorité à la bête. Cette bête procède du grand dragon. Elle en est la créature, d'une certaine façon, la marionnette. Et en tout cas, l'incarnation. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tous les pouvoirs de la bête ne lui semblent pas venir du dragon seulement. Verset 5, il lui fut donné, c'est pas écrit le dragon lui donna, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre, pas pendant un temps illimité, pendant 42 mois. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, verset 7. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Ces pouvoirs lui sont donnés, et je pense qu'elles ne proviennent pas, que ces pouvoirs ne proviennent pas du dragon. Parce que si c'était le cas, le dragon ne voudrait pas lui donner des pouvoirs seulement pour 42 mois, pour 3 ans et demi. Il voudrait lui donner des pouvoirs pour un temps illimité, éternel. Les 42 mois, nous l'avons déjà vu avant, ce sont les 1260 jours du chapitre 12, verset 6, du chapitre 11, verset 3. Ce sont les un temps, deux temps et la moitié d'un temps du chapitre 12, verset 14. C'est le temps où le temple est foulé aux pieds par les nations, c'est-à-dire les chrétiens persécutés, où la femme est emmenée au désert. C'est le temps où la femme est sur les ailes du grand aigle, qui est la rédemption de Dieu. Ce temps est limité, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui donne et qui limite les pouvoirs de la bête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui donne cette permission de s'opposer à Dieu et de persécuter son Église, c'est Dieu lui-même, car c'est lui qui fixe les temps et les saisons. La bête reçoit son pouvoir du dragon, certes, mais ultimement, la cause souveraine, finale, première des pouvoirs de la bête, c'est Dieu qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. De sorte que même ce qui ne va pas dans notre monde est maîtrisé parfaitement par lui, y compris les blasphèmes contre Dieu et la persécution de son Église bien-aimée. Alors comment la bête s'oppose à Dieu et persécute son Église? Verset 3. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre comme elle ?» Et verset 6, « Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. » La bête est l'image visible du dragon invisible, si l'on veut. Elle égare toute la terre en l'entraînant dans l'idolâtrie, en attribuant à sa propre puissance ce qui ne revient qu'à Dieu. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle? C'est une manière de dire que personne n'est aussi puissante que la bête, que personne n'est plus grande que la bête. Et ça, c'est un blasphème, c'est un mensonge contre Dieu. On attribue à la bête quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Car en effet, qui est comme Dieu? Et qui peut le vaincre? Et pourtant, on ne dit pas ça de Dieu, on dit ça de la bête. L'incomparabilité, la toute-puissance appartiennent à Dieu seul. Ici, on a ce qui est dit comme blasphème, quelque chose qui est dit contre Dieu. Cette bête s'oppose à Dieu en étant comme un blasphème vivant. Et elle persécute, nous dit notre texte, son tabernacle. Ça peut paraître mystérieux, mais la réponse est donnée dans le texte. Son tabernacle, virgule, ceux qui sont dans le ciel. Ce par quoi il faut comprendre, c'est la thématique du temple dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre que c'est son Église, ce dont la vie est cachée en Christ et qui, pour cette raison, habite déjà dans les lieux célestes, en lui, même dans cette vie présente. Nous, les chrétiens, et c'est votre cas si vous êtes chrétien, vous êtes en Christ, dans les lieux célestes. Vous êtes son tabernacle et la bête peut vous persécuter. Voilà pour la bête. Elle représente un grand empire. Elle incarne ainsi le pouvoir du dragon sur notre monde, dont il est dit ailleurs dans le Nouveau Testament qu'il est le prince et qui est tout en et notre monde et de notre monde qu'il est tout entier sous la domination du diable, qui s'oppose à Dieu et qui persécute pour un temps limité seulement son Église. Deuxième vision, la vision de l'autre bête, où nous trouvons la même structure. Premièrement, son apparition, verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. La première bête montait de la mer, comme pour signifier qu'il s'agissait d'une menace qui vient de l'extérieur. Vous avez peut-être vu le film qui était sorti il y a quelques années, 3. Et bien, à un moment, il y a les bateaux qui viennent de la mer, la menace extérieure. Mais notre bête monte de la terre. Et la première chose que l'on voit d'elle, c'est qu'elle a quelque chose d'un agneau. On pourrait s'y tromper. Elle a quelque chose de Jésus lui-même. Comme on le voit partout dans le reste de l'Apocalypse, l'agneau, c'est Jésus. Autrement dit, si la première bête était l'ennemi qui vient de l'extérieur, votre bête, c'est l'ennemi de l'intérieur. Cette bête représente peut-être des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui introduisent en douceur dans l'Église, parmi les chrétiens, des idées qui viennent du dragon. Cette autre bête incarne le même principe qu'on trouve en 2 Thessaloniciens 2, qui parle d'un homme de péché, d'un fils de perdition, qui s'élève contre Dieu jusqu'à s'asseoir comme Dieu, c'est-à-dire à la place de Dieu et contre Dieu, où ça ? Dans le temple de Dieu, c'est-à-dire au milieu même de son Église. Une bête qui vient de l'intérieur. Des pouvoirs lui sont donnés, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, verset 14. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Ici, nous trouvons un faux prophète qui est une parodie du Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit glorifie le Fils, de même cette autre bête qui parle comme le dragon glorifie la première bête. Mais une fois encore, si son autorité est directement dérivée de celle de la première bête, ultimement, nous devons comprendre que tout cela ne peut arriver qu'avec la permission du Dieu qui contrôle tout. C'est pour ça que le texte précise bien que les signes par lesquels elle égarait les habitants de la terre lui furent donnés. Et c'est un passif. Et que fait cette bête de ses pouvoirs ? Verset 12, elle s'oppose à Dieu et persécute son Église. Je lis le verset 12 au verset 17. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ou vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quitte à causer votre frustration, je ne vais pas vous donner ce que je pense que signifient les détails de ce texte. Et c'est plus aisé pour moi, car ça m'évitera que nous ne soyons pas d'accord inutilement. Je vais me contenter de souligner que cette deuxième bête est l'alliée de la première. Elle est à l'intérieur de l'Église, mais elle est l'alliée de celle qui est en dehors. Et deuxième remarque, le texte auquel cette description fait le plus clairement référence dans l'Ancien Testament, c'est Daniel 3, qui rapporte l'histoire de, c'est des noms que vous pourrez donner à vos enfants, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que, je vous résume l'histoire, alors qu'on leur avait demandé de s'associer au culte de l'image du grand roi de Babylone, Nabuchodonosor. Donc on leur avait demandé d'adorer l'image de ce roi, sous peine d'être jeté dans une fournaise ardente, ça chauffe. Et bien malgré cela, malgré la menace, malgré le fait que les autorités sous Nabucodonosor avaient le pouvoir de les tuer, ils n'acceptèrent pas de compromettre leur foi. Et pour reprendre un verset du chapitre 12, ils n'aimèrent pas leur propre vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils préférèrent perdre leur vie plutôt que de se prosterner devant la statue gigantesque du roi mégalomaniaque. Il y avait cette tentation de compromettre sa foi avec la fausse religion. Et plutôt que de se laisser marquer de l'empreinte de la bête sur leur main droite ou sur leur front, plutôt que de conformer leur pensée ou leur façon d'agir à la fausse religion, au monde, à la pensée du monde qui les entoure, ils ont préféré une fidélité sans faille à Dieu. C'était dur pour eux. Ça pouvait leur coûter, je ne sais pas moi, de ne pas pouvoir acheter ou de ne pas pouvoir vendre. Ça pouvait leur coûter leur vie. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont préféré souffrir des représailles allant jusqu'à la mort plutôt que de compromettre leur foi. Et ça m'amène à mon application. Application qui, je le crois, sont valables que l'on soit futuriste, prétériste ou historiciste, parce qu'on peut le dériver de façon secondaire, ou que l'on soit symboliste, parce que l'on le dérive directement. Et j'aimerais conclure en disant 3 ou 4 choses. Première chose, premier enseignement, la victoire finale est déjà acquise. La victoire finale est déjà acquise. Verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors là, on a un petit problème dans ce qu'on lit, parce qu'on a l'impression que on dirait qu'elle est blessée à mort, mais qu'en fait, c'est juste on dirait. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre le chapitre 5, le verset 5, juste quelques pages avant, et voici ce que vous lisez. Alors, peut-être que j'ai pas pris la bonne référence, c'est dommage. Chapitre 5, verset 6. Je vis au milieu du trône un agneau debout, comme offert en sacrifice. Comme offert en sacrifice. Et ce texte ne dit pas que Jésus a fait semblant d'être offert en sacrifice. Il a vraiment été offert en sacrifice. Et donc, lorsqu'on voit le chapitre 13 avec une structure qui est identique, comme blessé à mort, la bête a vraiment été blessée à mort. C'est juste que, d'une façon très curieuse, même si elle est blessée à mort, eh bien, on dirait qu'elle survit. Et d'une certaine façon, elle survit. Le coup mortel lui a déjà été donné. Fondamentalement, elle est déjà vaincue, elle est condamnée à mort. Mais on dirait qu'elle semble survivre, comme éternellement, qu'elle ressuscite toujours. Alors qu'en réalité, pour de vrai, elle est vouée à la destruction. Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. Et en même temps, la bête a vraiment été blessée mortellement à la croix lorsque le dragon a lui-même été jeté à terre. Depuis la croix, les forces du mal sont vaincues, en principe certes, mais dans l'histoire, cette victoire déjà acquise à la croix avance de plus en plus. Elle trouvera son achèvement lorsque Jésus reviendra. Cette victoire est déjà acquise, en principe, et elle se propage vraiment. C'est un peu comme lors de la Seconde Guerre mondiale. D'une certaine façon, la guerre a été décisivement gagnée lors du débarquement de Normandie à partir du 6 juin 1944. Après, il ne restait qu'à dérouler, d'une certaine façon. C'est une image imparfaite. Mais il a fallu encore à peu près plus d'un an pour que la victoire soit visible partout. De la même façon, la victoire est décisivement acquise par Jésus-Christ. Il ne reste qu'à attendre. Alors, voici le but de l'Apocalypse. Et voici le but de l'Apocalypse pour nous en Apocalypse 13. Prenons courage. Vous les chrétiens, prenez courage. Parce que le dragon comme les bêtes sont vaincus depuis la croix de Jésus-Christ. Et parce que rien ne pourra empêcher l'agneau qui est debout comme offert en sacrifice de porter définitivement à la fin des temps le coup de grâce à la bête qui est comme blessée à mort et qui en vérité l'est vraiment. Deuxième application. Comme on a pu déjà le voir d'ailleurs, Dieu contrôle parfaitement la situation. Dieu contrôle parfaitement la situation. Je pense l'avoir déjà suffisamment montré, et donc je vais me concentrer sur une application de la souveraineté absolue de Dieu qui concerne le salut de chaque individu et qu'on trouve au verset 8. Et tous les habitants de la terre, tous adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Et il faut comprendre que le « dès la création du monde » doit aller avec « inscrit ». Nous trouvons ici un bref condensé de la doctrine, certes controversée mais biblique, de la prédestination. Je suis prêt à en discuter peut-être plus longuement avec vous, si vous le souhaitez, après. Le reste du passage nous montre que si Dieu n'avait pas inscrit le nom de certains hommes dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, alors quelle aurait été la conséquence ? Eh bien, personne n'aurait été sauvé. Car ce que nous voyons ici, comme dans toute la Bible, c'est que le monde entier est sous la puissance du mal. Et que l'homme abandonné à lui-même est égaré par le diable et par les deux bêtes. Alors vous vous dites peut-être, c'est pas vraiment une application, Pierre Sauvan, que tu nous donnes là. C'est une doctrine de la prédestination qui est sèche et que je déteste. Je vais vous faire une confidence. Pour moi, c'est une des doctrines les plus précieuses qui nourrissent mon espérance. À un niveau extrêmement personnel, ça m'encourage. Mon propre frère n'a pas sa foi en Jésus-Christ. Il a grandi dans le même milieu que moi. Il connaît tout ça. Il connaît le message de la grâce. Et pourtant, il y reste... Bon, il dit pas de blasphème, mais il est complètement indifférent. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et si je compte seulement sur sa propre bonne volonté pour mettre sa foi en Jésus-Christ, alors le verdict est déjà là. Et je peux désespérer. Mais j'ai cet espoir que quelque part, peut-être, son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. Et il y a une implication pour nous ici ce soir. Et peut-être même, si vous n'êtes vous-même pas chrétien, c'est que votre foi est nécessaire pour votre salut. Et que c'est un don de Dieu. La prédestination va dans la logique que finalement, ce n'est pas parce qu'on est meilleur ou parce qu'on est plus intelligent que les autres qu'on est sauvé. Je ne vaux pas mieux que mon frère et j'ai bien peur souvent d'être bien pire. Je ne suis pas plus intelligent que lui. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas plus moral. Mais Dieu me sauve. La doctrine de la prédestination ne nous est pas non plus donnée pour nous tourmenter et pour me dire « Est-ce que je suis prédestiné ? Est-ce que je suis prédestiné ?» Car il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est « Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ ?» Et si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est l'agneau de Dieu offert en sacrifice, qui est le médiateur, l'intermédiaire entre vous et Dieu, celui qui vous réconcilie avec Dieu, de sorte que désormais vous n'êtes plus égaré par le diable et les bêtes, mais qu'au contraire, vous commencez à vivre d'une façon qui honore Dieu, parce que vous avez la foi en lui, parce que vous croyez en lui, alors, eh bien, vous savez que votre nom est inscrit dans le livre de l'agneau offert en sacrifice, et qui a acquis le droit d'inscrire votre nom. S'il n'en était pas ainsi, toute tentative d'évangélisation serait vouée à l'échec. S'il n'y avait personne d'inscrit dans le livre de vie, ça ne servirait à rien d'avoir un forum Veritas, un dialogue, pardon, Veritas la semaine prochaine. Ça ne servirait à rien d'inviter ses amis. Mais nous savons que Dieu a un